VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 8 novembre 2023. Au Togo, 5 militaires, dont le général Kadanga, ont été condamnés pour le meurtre du colonel Madjolba en 2020. Au Mali, l'armée reconnaît avoir mené des frappes à Kidal et parle de cibles terroristes. Israël a resserré son emprise sur la ville de Gaza sans espoir de répit pour les civils palestiniens pris au piège. Ici aux États-Unis, l'Ohio approuve la protection du droit à l'avortement. Ne manquez pas notre page Sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Togo, 5 militaires, dont un général, ont été condamnés ce mardi soir à des peines de 5 à 20 ans de prison dans l'affaire du meurtre en 2020 d'un colonel membre du cercle rapproché du président Faure Gnassingbé. Les précisions avec Lionel Kaïma.
Le colonel Bitala Madjolba, commandant du 1er bataillon d'intervention rapide, a été retrouvé mort dans son bureau le 4 mai 2020 au lendemain de l'investiture du président Faure Gnassingbé. L'autopsie avait révélé une blessure par balle et les autorités avaient sollicité l'expertise de la justice française. 7 militaires ont été jugés par un tribunal militaire pour assassinat, complicité d'assassinat, entrave au bon fonctionnement de la justice et complot contre la sécurité intérieure de l'État. Le général de division Abalo Kadanga, ancien chef d'état-major des forces armées togolaises, a écopé de 20 ans de réclusion. Deux autres militaires, dont le chauffeur de la victime, ont été condamnés à 15 ans de prison et deux autres à 5 ans d'emprisonnement. Deux accusés ont été acquittés. Les condamnés déchus de leur qualité de militaires doivent verser 1 milliard de francs CFA à l'État à titre de dommages et intérêts.
Des frappes aériennes de l'armée malienne ont fait plusieurs morts à Kidal, selon des résidents. Le cadre stratégique permanent, une alliance de groupes armés à dominante Touareg, fait état de 14 morts, dont 8 enfants, regroupés devant une école et 6 notables. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'armée malienne a confirmé sur les réseaux sociaux avoir procédé à des frappes, mais soutient avoir visé des cibles terroristes dans l'ancien camp de la MINUSMA et avoir neutralisé plusieurs pick-up. Elle appelle la population à ne pas céder à la propagande des terroristes visant à ternir la réputation des forces armées maliennes. Elle avait indiqué samedi avoir neutralisé la veille, avec ses moyens aériens, un certain nombre de cibles qui préparaient des opérations à l'intérieur du camp évacué par la MINUSMA. Anticipant le départ de la mission onusienne, un convoi de l'armée est parti le 2 octobre en direction de Kidal. Le retrait de la mission de l'ONU a déclenché une course pour le contrôle des anciens camps de casques bleus. Bamako réclame la restitution de ses camps et les rebelles s'y opposent.
En Éthiopie, des combats opposent des miliciens aux forces fédérales à Lalibela, dans la région en conflit de l'Amara, selon plusieurs habitants de cette ville sainte orthodoxe, célèbre pour ses églises creusées dans la roche. Selon eux, les milices d'autodéfense Amara Fano semblaient dans l'après-midi contrôler une vaste partie de la ville, notamment le site abritant les églises troglodytes inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Fano, milices informelles de citoyens, combattants volontaires, ont épaulé l'armée éthiopienne durant les 2 ans de conflit, l'ayant opposé aux autorités rebelles de la région voisine du Tigré, auquel a mis fin un accord signé en novembre 2022 à Pretoria, en Afrique du Sud. La police a expulsé aujourd'hui des centaines de civils soudanais qui avaient trouvé refuge dans une école de l'État oriental de Guédaref, ont indiqué des témoins. Guédaref accueille actuellement 273 000 personnes déplacées par la guerre déclenchée en avril entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Après l'échec cette semaine de nouveau pour parler sur un cessez-le-feu parrainé par l'Arabie Saoudite et les États-Unis, les affrontements ont continué aujourd'hui. Un comité local de volontaires évoquant une intensification des affrontements dans un quartier du nord de Khartoum. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'Afrique de l'Est ont provoqué des inondations dans plusieurs villes et une catastrophe d'une ampleur à laquelle la Somalie n'avait pas été confrontée depuis des décennies, avec au moins 29 morts et plus de 300 000 personnes déplacées. Selon les Nations Unies, au moins 2400 habitants de la ville de Louk sont encerclés par les eaux. Le fleuve Djouba, qui arrive d'Éthiopie, étant sorti de son lit. Au Kenya voisin, les inondations ont fait au moins 15 morts, tandis qu'en Ouganda, les eaux ont submergé un pont reliant la capitale Kampala au nord-ouest du pays. Un ancien chef rebelle en RDC, Roger Lumbala, sera jugé en France pour complicité de crimes contre l'humanité. Incarcéré en France depuis 2021, cet ancien député d'opposition, aujourd'hui âgé de 65 ans, devra comparaître devant les assises de Paris pour une complicité de crimes contre l'humanité et participation à une entente en vue de commettre des crimes contre l'humanité selon une ordonnance de mise en accusation datée de lundi. Pendant la Deuxième Guerre du Congo entre 1998 et 2003, Roger Lumbala dirigeait le RCDN, groupe armé fondé en 1998 qui avait son fief dans le nord-est du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 33e jour. Israël a juré d'anéantir le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza. John Lydon.
Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, affirme que les troupes israéliennes sont au cœur de la ville de Gaza, qu'il a qualifiée de plus grande base terroriste jamais construite. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a exclu tout cessez-le-feu sans la libération des otages enlevés le 7 octobre par le Hamas. Selon les autorités israéliennes, plus de 1400 personnes sont mortes depuis le 7 octobre. Du côté palestinien, selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 10 300 personnes ont péri à Gaza dans les bombardements israéliens. Le Comité international de la Croix-Rouge a affirmé qu'un de ses convois d'aide humanitaire a été visé hier par des tirs, sans préciser la provenance de ces tirs. Médecins sans frontières déplore la mort d'un de ses employés à Gaza dans un bombardement israélien sur le camp de réfugiés de Shati.
Et le Qatar négocie la libération d'une dizaine d'otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza en échange d'une trêve humanitaire dans la guerre opposant Israël au mouvement islamiste palestinien. Le pays du Golfe, en coordination avec les États-Unis, veut obtenir la libération de 10 à 15 otages en échange d'un cessez-le-feu d'un à deux jours. Plus de 240 personnes ont été enlevées le jour de l'attaque inédite des commandos du Hamas sur le sol israélien. Ici, aux États-Unis, la défense du droit à l'avortement mobilise les électeurs, y compris dans des États traditionnellement conservateurs. Quatre États ont organisé une série de scrutins locaux mardi qui seront déterminants pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Eric Manirakiza.
En Ohio, un État du Midwest que Donald Trump a remporté à deux reprises, les électeurs ont approuvé mardi l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution de l'État. Andy Beshear, gouverneur démocrate du Kentucky, a été réélu en faisant campagne sur la défense du droit à l'interruption volontaire de grossesse contre un candidat républicain soutenu par Donald Trump. En Virginie, sur la côte Est, les démocrates ont assuré le contrôle du Parlement local, un camouflet pour le gouverneur républicain Glenn Youngkin, et qui avait tenté de rallier les électeurs autour d'un projet limitant le droit à l'avortement. Lors des élections parlementaires fédérales de l'automne dernier, le Parti démocrate avait fait mieux que les sondages qui avaient prévu une marée républicaine.
Les cinq principaux candidats à la présidence du Parti républicain se retrouvent aujourd'hui, ce soir, pour le troisième débat de l'année. Comme il avait fait lors des deux précédents débats, Donald Trump devrait snober le troisième débat des républicains pour l'investiture à l'élection présidentielle, estimant qu'il a une très large avance dans les enquêtes d'opinion. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce mercredi à Séoul, où il va rencontrer son homologue sud-coréen. Cette visite, la première d'un secrétaire d'État américain depuis 2 ans et demi. Washington et Séoul considèrent que le resserrement des liens militaires entre la Corée du Nord et la Russie, dont les stocks de munitions s'épuisent en raison de la guerre avec l'Ukraine, est une tentative de Pyongyang de s'assurer des capacités militaires stratégiques en retour. La Commission européenne a donné aujourd'hui son feu vert à l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne avec la Moldavie et l'Ukraine. Les pourparlers pourront être officiellement entamés une fois que Kiev aura satisfait aux conditions restantes portant sur la lutte contre la corruption, l'adoption d'une loi sur le lobbying conforme aux normes de l'Union européenne et le renforcement des garanties pour les minorités nationales, a fait savoir l'exécutif européen basé à Bruxelles, en Belgique. 7 personnes ont été arrêtées en Italie et 10 aux États-Unis à la suite d'une opération menée par des policiers italiens et américains contre des membres présumés de la mafia sicilienne. Ces arrestations interviennent après 2 ans d'enquête visant les membres de la famille Gambino de New York et certains de ses associés siciliens, précise la police. Les Gambino sont l'une des 5 familles de la mafia italo-américaine établie à New York. Les accusations portées contre les membres de la famille concernent des meurtres, des prêts usuraires et le trafic de stupéfiants.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute est quoi avec John Lydon?
Le produit net bancaire de Bank of Africa Bénin, filiale du groupe bancaire du même nom, a enregistré une progression de 10,03% au premier semestre cette année comparé à la même période en 2022. C'est ce qu'a annoncé l'établissement bancaire basé à Cotonou. Le secteur de l'artisanat représente plus de 40% du tissu économique de la Côte d'Ivoire pour une contribution de 12% au produit intérieur brut. Financial Afrique le révèle en citant une déclaration du ministre du Commerce et de l'Industrie à l'ouverture de la 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat. Au Cameroun, les centrales à gaz de Kribi et Fuel de Dibamba pourraient bientôt reprendre du service. Globelec, producteur d'électricité indépendant, aurait reçu 5,7 milliards de francs CFA du Cameroun pour redémarrer les centrales à gaz de Kribi de 216 MW et à Fuel de Dibamba, soit 88 MW. Cette somme s'ajoute aux 2 milliards de francs CFA déjà reçus des NEO le 27 octobre 2023. C'était la Minute Éco avec John Lydon pour VO Afrique.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football avec la Ligue des champions féminines africaines qui se poursuit en Côte d'Ivoire.
Oui, les rencontres de la 2e journée débutent ce soir dans le groupe A basé à Korogo dans le Nord. Après leur début réussi, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns jouent contre les Marocaines de Sporting de Casablanca. L'Atlético FC d'Abidjan affronte les Tanzaniennes de JKT Queens. Le tournoi dont la finale est prévue le 19 novembre prochain sert de test pour la prochaine CAN en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire.
Ligue des champions toujours, mais cette fois-ci en Europe.
Manchester United du portier camerounais André Onana fait face au FC Copenhague dans le groupe A. Toujours dans cette poule, en 3 mois ponctués de 17 buts sous le maillot du Bayern, Harry Kane a déjà répondu aux attentes suscitées par son arrivée à Munich. Prochaine étape aujourd'hui en Ligue des champions contre Galatasaray pour tenter de décrocher un billet pour les 8e de finale. Vainqueur de leurs 3 premières rencontres, le Real Madrid en tête du groupe C a l'opportunité de se qualifier mathématiquement pour les 8e de finale de cette Ligue des champions contre Braga qu'ils ont battu à l'aller 2-1.
En Ligue Europa, demain jeudi, on ne verra pas Pierre-Emerick Aubameyang.
L'attaquant de l'OM a dû déclarer forfait pour le match de son équipe sur le terrain de l'AEK Athènes. L'avant-centre gabonais, qui n'a pas participé à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui à Marseille, ne figure pas dans le groupe retenu par Gennaro Gattuso pour voyager à Athènes. Selon une porte-parole du club qui n'a pas donné plus de précisions, il souffre d'une gêne. Plongé dans une saison chaotique, l'Olympique de Marseille peine à trouver de la continuité dans ses performances et ses résultats et se retrouve accablé par 2 nouvelles blessures, celle de Valentin Rongier, touché au genou, et maintenant Pierre-Emerick Aubameyang.
NBA, le All-Star Game 2025 aura lieu à San Francisco.
Cette 74e rencontre du All-Star Game qui réunit les meilleurs joueurs pour un match de gala aura lieu le 16 février 2025 dans la salle des Golden State Warriors à San Francisco. Avant cela, le week-end sera notamment animé par un match opposant les débutants de NBA à des joueurs disputant leur 2e année dans la Ligue. Cette saison, le All-Star Game aura lieu le 18 février 2024 à Indianapolis, la ville qui avait accueilli l'événement pour la première fois en 1985. Ce match entre les meilleurs joueurs reviendra à la traditionnelle opposition entre représentants de la conférence Ouest et de la conférence Est. Pendant plusieurs années, la NBA a expérimenté d'autres schémas pour tenter de redonner du prestige et de l'intérêt à cette rencontre, souvent critiquée pour le manque d'engagement, surtout en défense, des joueurs qui y prennent part.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Ici, donc, aux États-Unis, les élections locales qui se sont tenues hier ont commencé à livrer leur verdict. La démocratie a gagné et Make America Great Again a perdu, s'est réjoui le président Joe Biden en référence à un slogan cher à Donald Trump, son potentiel adversaire à la présidentielle prévue l'année prochaine. Un grand soir pour les démocrates qui ont remporté plusieurs succès notables que nous présente Mouamadou Mfa.
En Virginie, le gouverneur républicain Glenn Youngkin a perdu sa majorité à la Chambre des délégués et devra cohabiter. Youngkin voulait profiter du renouvellement complet de la législature locale pour s'y arroger le contrôle des deux chambres, jusqu'ici partagé entre les deux partis. C'est un pari raté. Dans le Kentucky, le gouverneur démocrate Andy Beshear a remporté un deuxième mandat dans cet État où Donald Trump avait remporté l'élection avec une marge de plus de 25 points en 2020. Il a battu Daniel Cameron, un procureur général de l'État ayant des liens étroits avec M. Trump et le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell. À New York, le démocrate Youssef Salam a été élu au conseil municipal. Il est l'un des 5 adolescents afro-américains et hispaniques condamnés à tort pour le viol d'une joggeuse à Central Park en 1989, l'une des plus célèbres erreurs judiciaires aux États-Unis. La victoire, très symbolique, a été fêtée dans son quartier d'Harlem.
C'est avec beaucoup d'humilité et d'honneur que je me présente devant vous en tant que conseiller municipal nouvellement élu du village légendaire de Harlem.
À Philadelphie, pour la première fois, une femme démocrate devient maire. Il s'agit de Cheryl Parker, une ancienne conseillère municipale. Un autre démocrate, Gabe Emo, est le vainqueur des élections au Congrès du Rhode Island. Il sera le premier noir à représenter l'État au Congrès. Au Minnesota, Nadia Mohamed, 27 ans, est devenue la première femme noire, la première somalienne et la première musulmane à être élue maire de Saint-Louis Park. Autre scrutin suivi de près à travers le pays, dans l'État de l'Ohio, contrôlé par les Républicains, l'on a voté pour décider d'inscrire ou non la protection du droit à l'avortement dans la Constitution de l'État. Les électeurs ont approuvé l'inscription de ce droit, selon les projections des médias, accordant une victoire retentissante aux défenseurs de l'IVG et aux démocrates du président Joe Biden. Un an avant la présidentielle, c'est une victoire qui fait du bien au président Biden, lui qui est en mauvaise posture dans les sondages.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Direction maintenant le Burkina Faso, où des personnes ont été contactées par téléphone pour s'entendre dire qu'elles sont réquisitionnées pour participer à la lutte contre le terrorisme. Un collectif d'avocats affirme que certaines d'entre elles ont reçu des actes intitulés « Ordre de réquisition » signés par le commandant des opérations du Théâtre National. Yacouba Ouédraogo a joint Daouda Diallo, coordonnateur du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, lui-même parmi les personnes réquisitionnées.
Mon appréciation personnelle par rapport à cette réquisition est même collective. Dans le cadre de notre collectif des syndicats et des OSC, c'est très clair, c'est une réquisition arbitraire, punitive et même criminelle. En ce sens que ça vise même à dévoyer tout l'intérêt du décret de 2023 portant mobilisation générale et mise en garde, qui n'est pas respecté dans ses dispositions et dans son esprit. Parce que la loi prévoit très clairement de mobiliser des citoyens ou des personnes physiques pour soutenir l'effort de la guerre, mais pas dans une visée punitive, répressive ou dans le sens d'étouffer toute voix discordante.
Pourquoi vous dites que c'est une décision punitive dans la mesure où, sur le plan légal, il y a effectivement cette loi d'avril 2023 qui prévoit la mobilisation générale?
Elle est punitive et même arbitraire parce que la loi sur l'adhésion au volontariat pour la défense de la patrie, c'est une question de volontariat. Et deuxièmement, quand on est sollicité, c'est pour un travail spécifique et ça doit être précisé dans le motif de la réquisition. Ce qui n'est pas fait et les informations que nous recevons venant de ceux qui ont déjà été enrôlés de force ou déportés de force sur le terrain, c'est des traitements dégradants, de torture humiliante qu'ils ont subi, surtout sur le terrain. Voilà, ça qu'on leur dise concrètement ce qu'ils devaient apporter à la lutte. Troisièmement, la lutte aujourd'hui s'articule sur la logique du tout militaire, ce qui n'est pas la conception de bon nombre d'acteurs aujourd'hui au Burkina Faso, parce que la logique du tout militaire depuis 2015 à nos jours est un échec absolu sur le terrain. Et donc, on n'est pas d'accord non seulement sur la stratégie qui est déployée, et deuxièmement, on n'est pas volontaire pour soutenir l'équipe actuelle qui avait promis d'apporter la sécurité et la sérénité au Burkina en 3 mois.
Daouda Diallo, lorsqu'on parle de réquisition, il n'y a plus question d'être volontaire ou pas.
La loi, elle est très claire là-dessus. Elle ne doit pas être abusive. Elle doit être précise avec les motifs très bien définis. Aujourd'hui, c'est surtout les activistes pro-pouvoir qui décident de qui doit aller au front. Ces activistes aujourd'hui, à travers les commentaires qu'ils font sur ton profil ou sur les profils de nos pages, apparemment c'est eux qui orientent le pouvoir dans la réquisition des citoyens burkinabés qui donnent leurs avis critiques et constructifs dans la marche de la nation. Parce que quoi qu'on dise, il n'y a pas de résultats tangibles aujourd'hui qu'on peut présenter pour donner de l'espoir au peuple burkinabé. Certes, il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas à la hauteur des attentes.
Daouda Diallo, coordonnateur du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Centrafrique, depuis le forum de Bangui en 2015, plusieurs initiatives ont été entreprises pour tenter de rétablir la paix, dont la commission Vérité et Réconciliation. Nathalie Barge a eu un entretien avec Antoinette Montaigne, ancienne ministre de la Réconciliation et membre de cette commission.
En Afrique du Sud, il y avait un processus politique qui était enclenché où l'apartheid, en tant que système qui a présidé aux destinées de ce pays pendant des décennies, était remis en question par tout le monde. On était d'accord pour passer à la phase de la vérité et purger le passif de tout ce qui s'est passé. Il y a des conflits multiformes aujourd'hui sur le continent et ces conflits ne sont pas achevés. Et donc, les commissions vérité viennent là pour essayer de casser la dynamique des conflits par une dynamique positive de concession de la paix. Et c'est là tout le défi et les enjeux qui se présentent dans différentes configurations aujourd'hui en Afrique.
Vous êtes membre de la commission Vérité et Réconciliation en Centrafrique et on a également les tribunaux spéciaux, enfin la Cour pénale spéciale. Pourriez-vous nous dire comment ça se passe, la relation entre ces deux structures ?
La Cour pénale spéciale va mener des investigations dans un cadre juridictionnel pour pouvoir condamner les personnes reconnues coupables. Tandis que la Commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation a un rôle non juridictionnel. Le rôle de la Commission Vérité en Centrafrique, c'est notamment de décrire la mémoire historique. La mémoire historique écrite par le peuple centrafricain, pas par les institutions. C'est là la différence de taille. Parce qu'il est question que, avec les vécus des crises successives depuis plusieurs décennies, à commencer par la disparition tragique de Barthélemy Bouganda, le père fondateur, en 1959, jusqu'en 2019, soit 60 ans d'histoire, il est question de passer, de refaire faire surface la mémoire des populations, des communautés et même des institutions sur comment ces crises ont été vécues qui expliquent aujourd'hui la situation du pays. Donc, il n'y a pas d'obligation de témoigner, il y a une volonté d'ouvrir ce cadre, cet espace à toutes les institutions, aux universités, aux localités, aux communautés, aux différents corps sociaux, de pouvoir témoigner et aux individus naturellement, aux victimes et témoins.
Docteur Antoinette Montaigne, on a bien précisé tout à l'heure qu'on a des commissions vérité-réconciliation dans plusieurs pays sur des conflits finalement qui sont encore en cours. C'est le cas notamment dans votre pays. Comment vous l'expliquez? Est-ce que l'on peut parler d'échec d'une certaine manière, en tout cas de difficulté à accéder vraiment à cette paix dans votre pays?
En 2014, quand la stratégie a été mise en place pour proposer la réconciliation nationale, il y avait la possibilité de travailler sur la question de la commission vérité. Et c'est venu 5 ans après, le premier mandat du retour à l'ordre constitutionnel était presque achevé lorsque la loi a été votée. Si on était resté sur les accords qui ont eu lieu en 2015 en marge du forum national de Bangui, c'est-à-dire l'accord politique pour la paix et la réconciliation et les recommandations de tous les délégués venus de toutes les régions de Centrafrique, normalement, il n'y avait pas de raison d'avoir encore un conflit qui se poursuit. Ce qui montre aussi que cette commission, elle est nécessaire parce que le temps du forum de Bangui après les consultations là-bas n'ont pas permis d'aller en profondeur.
Antoinette Montaigne, ancienne ministre de la Réconciliation, membre de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation en Centrafrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les Nations Unies continuent de réclamer un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, alors que les combats se déroulent à l'intérieur de la ville. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui déplore 88 morts au sein de son personnel, lance un appel pour épargner les civils. Abdourahmane Dia s'est entretenu avec la directrice de la communication de l'UNRWA, Juliette Touma, jointe à Amman en Jordanie.
C'est terrible. Je ne pense pas qu'il y ait de mots qui puissent rendre justice à ce qui arrive aux civils dans la bande de Gaza, alors que l'agence accueille à elle seule 700 000 personnes dans 150 abris. Toutes ont été déplacées, forcées de fuir leur maison. Il s'agit d'un déplacement forcé et d'une punition collective. Gaza et ses habitants, ses civils, ses familles subissent un siège très très strict depuis près de mois maintenant. Les denrées alimentaires sont très rares, l'aide humanitaire qui arrive est très très limitée. Les bombardements sont constants et beaucoup de souffrances.
Quelle est la situation dans le camp de Jabalia après les bombardements et où sont les gens?
Il y a toujours des gens dans le nord de la bande de Gaza, y compris dans le camp de Jabalia. Le camp de Jabalia est le plus grand camp de réfugiés palestiniens de toute la bande de Gaza et c'est l'un des plus anciens et l'un des plus surpeuplés. Il comptait autrefois 125 000 personnes. Nous estimons qu'environ 30 000 personnes continuent de vivre à Jabalia, y compris dans nos abris.
Justement, votre agence fait du travail humanitaire, mais qu'en est-il du personnel? Comment cela se passe pour le personnel? Quelle est la situation un peu pour eux?
À Gaza, notre agence est le plus grand accueil humanitaire. C'est le plus grand accueil humanitaire et nous sommes présents depuis plus de 70 ans. Cette décennie de travail formidable que l'agence a accomplie avec et pour les communautés palestiniennes. Vous savez, nous donnons des écoles, par exemple. Nous sommes la seule agence des Nations Unies au monde à gérer des systèmes scolaires à part entière. La grande majorité de notre personnel, 13 000 personnes, qui travaillent avec l'agence sont des enseignants et, ironiquement, le nombre d'enseignants que nous avons perdu depuis le début de cette guerre est le plus élevé de tous ceux que nous avons perdus. Notre personnel est affecté, exactement comme les communautés. Notre personnel à Gaza est issu des communautés et travaille avec elles. Il est très touchant de voir leur formidable volonté et leur énergie, malgré le fait qu'ils ont subi des pertes massives, malgré le fait qu'ils ont été déplacés eux-mêmes et qu'ils continuent à travailler pour ceux qui le peuvent. Ils continuent à rendre service aux personnes dans le besoin avec le peu de matériel dont dispose encore l'agence. Et ils continuent d'être les héros méconnus des communautés. Ce sont des héros méconnus.
Dans Washington Forum cette semaine, les États-Unis à un an de la présidentielle de 2024. Un nouveau duel Biden-Trump semble se dessiner de plus en plus. L'ancien président, malgré les poursuites judiciaires le visant, domine toujours la course chez les républicains. Un sondage publié dimanche le donne même vainqueur face à Joe Biden dans plusieurs États clés, suscitant l'inquiétude auprès de responsables démocrates. Comment interpréter un éventuel nouveau duel Biden-Trump? Quel sujet intéresse déjà les électeurs américains pour 2024? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnon, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.